Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de l'environnement qui aujourd'hui nous emmènera dans le Caucase, au chevet d'une véritable mer intérieure sinistrée qui fut certainement la victime d'une des plus grandes catastrophes écologiques de notre histoire contemporaine, la mer d'Aral.
Les particules de sel se répandent sur des distances gigantesques. Nos scientifiques ont trouvé du sel de l'Aral sur les sommets glacés des Tian Shan, qui sont à 2500 km de la mer. Ce sel finalement se répand partout dans le monde. C'est une catastrophe. Et je ne parle pas du territoire autour de la mer d'Aral. C'est une tragédie.
Comment cette mer qui a porté des flottes de pêcheurs, qui a même développé autour d'elle des villes et des industries de pêche, s'est retrouvée pratiquement sur le point de disparaître, transformant la région en un désert balayé par le vent, le sel et les pesticides? C'est ce que nous essaierons de comprendre avec un reportage de notre correspondant Régis Janté et avec l'analyse de Marie-Hélène Mandrillon du CNRS. La mer d'Aral, ce sera donc tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Aujourd'hui, je pense que les hommes sur toute la planète savent que ceux qui portent atteinte à l'environnement, que ce soit des États qui se rendent coupables de violences portant atteinte à l'environnement mondial, ou que ce soit des entreprises qui exploitent, surexploitent des ressources, sont coupables.
Et maintenant, on commence notre tour de l'actualité environnementale avec notre témoin du jour. Et aujourd'hui, nous recevons un maître jardinier. Claude Bureau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un ex-chef jardinier au Jardin des Plantes et vous êtes toujours responsable des animations et des relations avec la presse. D'ailleurs, vous êtes chroniqueur chez notre confrère de France Info et auteur de plusieurs ouvrages sur les jardins, dont un échange entre vous et Nadia de Kermel qui s'intitule « Sur les pas d'un maître jardinier » aux éditions Rue de l'Échiquier. Claude Bureau, devenir un maître jardinier, est-ce que c'est une distinction qui se gagne?
Non, ça se gagne pas. Hein. C'est une reconnaissance de nos confrères. On est nommé par nos pairs maître jardinier, donc ça se passe plutôt d'une façon assez sympathique, lors de réunions de confrérie, de choses comme ça. Et bon, c'est pas un titre officiel, disons. Hein. C'est un titre officieux.
C'est la reconnaissance
voilà,
d'un savoir.
Voilà, on est reconnu par ses pairs, quoi.
Très bien. Alors, je vous propose maintenant de réagir à notre sélection d'informations environnement du jour avec tout d'abord cette mobilisation des ONG pour sauver l'une des dernières grandes forêts tropicales de l'île de Sumatra en Indonésie. 400 000 hectares de forêt où cohabitent des populations indigènes qui vivent de manière traditionnelle et une biodiversité d'une grande richesse arpentée par de nombreux tigres et gibbons et donc menacée de disparaître. Pour les ONG, on est sur la ligne de front du climat. Si cette forêt disparaît, elle contribuera de manière significative au réchauffement climatique. Mais la forêt est menacée par un méga projet de plantation d'acacia. Claude Bureau, d'un côté, le monde tente de négocier hein, des accords internationaux sur le climat, la protection de la biodiversité, etc. Et puis d'un autre côté, on continue à laisser se développer des projets extrêmement destructeurs.
Bah, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas surtout l'importance complète de la diversité dans ces forêts. Il y a encore plein de végétaux qu'on n'a pas découverts. Hein. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'une plante va disparaître, on ne sait pas. C'est peut-être un de nos futurs médicaments qui disparaît. On ne connaît pas. Puis alors, en plus de ça, il est tout à fait évident aussi que nous sommes responsables, hein, nous, au niveau de ce qu'on pourrait appeler les Occidentaux, ou du moins l'Europe. Quand je vois les collègues qui achètent des bois exotiques pour faire des piscines en Île-de-France et qu'on sait d'où viennent ces bois, quand je vois des plantations abusives d'un certain nombre d'arbres à palmes, etc., etc., pour faire de l'huile ou pour faire des produits cosmétiques, je dis quand même qu'on n'a pas une attitude très sérieuse.
Bon, alors, ce matin, dans les bonnes nouvelles, s'ouvre à Calvi, en Haute-Corse, le Festival du Vent. Plus de 600 personnalités sont attendues pour 4 jours de débats, de concerts, de projections et d'animations centrées sur les questions d'environnement et de développement durable. La chanteuse Mo participera au festival.
Donc, au Festival du Vent, je vais chanter avec mon équipe. Moi, je m'appelle Mo. On va faire un concert en première partie d'Ézéchiel. La thématique écologique, c'est même plus une thématique, c'est la nécessité écologique pour moi est importante, comme pour beaucoup de gens. Maintenant, on parle d'éco-citoyen, mais c'est même plus éco-citoyen, c'est citoyen tout court. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai grandi en Corse, donc très tôt, j'ai senti les forces naturelles comme étant partie intégrante de la vie quotidienne. Et c'est vrai, quand on habite en ville, on oublie un peu tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Qu'on est une génération qui a été une génération du gâchis et qu'on essaye d'être un peu plus intelligent au quotidien. Et je pense que le festival est un moment important aussi pour faire réaliser et puis réaliser soi-même des petits gestes. Voilà, comme disait Brassens, la révolution, ça commence par soi-même. Et je pense que si tout le monde prend conscience des petits gestes quotidiens, on arrivera déjà à un gâchis bien moins important.
Claude Bureau, je vous regardais acquiescer en écoutant ce.
Ah oui, pour les petits gestes quotidiens, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'il faut globaliser notre action, mais c'est vrai que déjà en récupérant les eaux de pluie, en pratiquant le paillage, en nos jardiniers, en ne mettant plus de produits phytosanitaires d'origine chimique ou des intrants, etc. C'est vrai que c'est des petits gestes de tous les jours et c'est notre lutte, quoi, disons.
Alors, on peut retrouver donc l'intégralité de ce petit interview chez nos confrères de Terre TV. Hein. Vous connaissez le Festival du Vent ?
J'en ai entendu parler, jamais été.
Vous pensez que c'est des événements importants comme ça, mobiliser, sensibiliser, essayer d'expliquer un petit peu toutes ces questions d'environnement.
Tout est bon pour sensibiliser. On peut démarrer à partir d'un simple jardin familial dans la banlieue, comme on peut faire un grand festival. Je pense que notre action, c'est tous les jours.
No.
Goldman dans RFI sur C'est pas du vent. Et tout de suite, zoom sur l'actualité environnementale d'un continent et comme tous les mercredis, direction l'Europe. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Arnaud.
Alors pour commencer, on prend d'abord la direction de l'Espagne qui est pointée du doigt par la Commission européenne.
Oui, on ne rigole pas avec les fonctionnaires de Bruxelles. Ils donnent 10 jours seulement aux autorités espagnoles pour fournir des explications sur la dégradation inquiétante d'un parc national. Il s'agit là du parc des Tablas de Daimiel. Je ne sais pas si je prononce bien. Il est situé dans le sud du pays. Ce parc a beaucoup souffert ces dernières années du pillage des sous-sols. En fait, pendant des décennies, les agriculteurs ont arrosé leur culture avec l'eau très précieuse stockée dans les sous-sols. Eh bien, aujourd'hui, Arnaud, ce parc qui a été le meilleur exemple espagnol d'écosystème de zone humide est de plus en plus asséché. Pourtant, c'est là que les oiseaux se sont toujours rassemblés pour hiberner et pour nidifier.
Donc, Bruxelles n'a peut-être pas tort de rappeler les Espagnols à l'ordre. Mmh. D'ailleurs, le site est protégé par l'UNESCO qui a donné 3 ans pour la remise en état du parc. Autre sujet avec les péripéties du gouvernement allemand.
À peine élu, le nouveau gouvernement allemand s'attire déjà les foudres des écologistes. Alors, quelle est la pomme de discorde à Berlin? Eh bien, c'est une pomme de terre, plus précisément une patate génétiquement modifiée, son nom pourtant plutôt doux, Amflora. Amflora est loin d'être la vedette du nouveau contrat de coalition signé par les conservateurs et les libéraux à Berlin. Mais elle donne du grain à moudre car les écologistes ne supportent pas que le nouveau gouvernement compte promouvoir cette pomme de terre riche en amidon conçue et produite par le géant de la chimie allemand BASF. Alors, selon le patron de l'Association écologique pour l'économie alimentaire, la branche biotechnique a réussi à mener par le bout du nez les acteurs du nouveau gouvernement.
Il faut savoir que cette semence est conçue pour être utilisée par l'industrie pour fabriquer des textiles, du béton et encore du papier.
C'est pas des pommes de terre de consommation.
Non, tout à fait. Et c'est assez fin, justement, que BASF a demandé l'autorisation à l'Union européenne de cultiver Amflore, mais le groupe admet quand même qu'on ne peut pas exclure de retrouver cette pomme de terre finalement, un jour peut-être aussi dans l'alimentation. Pour l'instant, en tout cas, Amflora n'est cultivée qu'à titre expérimental.
C'est obligatoire, cette pomme de terre va fleurir. J'espère qu'elle aura au moins ses fleurs. Bon, il y aura du pollen. Ce pollen va se promener et puis va venir sur nos pommes de terre de consommation, nos bonnes pommes de terre de jardin. Et
donc
dans quelques années, on aura même des rats ou des amandines qui auront des gènes génétiquement modifiés. Moi, je trouve que c'est vraiment une aberration totale de faire ce type de culture.
Vous le voyez déjà, c'est difficile de faire vraiment du 100% bio. Enfin, je veux dire, il y a une contamination.
À partir du moment où on ne pourra pas nous dire à nous jardiniers qu'est-ce qu'on fait des pollens, moi, je serais toujours contre la culture des OGM en plein champ, qu'ils cultivent leurs OGM sous tunnel ou dans des laboratoires pour faire un certain nombre d'expériences. Moi, je ne suis pas contre, mais pas en plein champ, parce que les pollens, ce n'est pas contrôlable.
Alors, avec troubles du sommeil, nervosité, trop de bruit, nuit à la santé, c'est bien connu.
Oui, mais ce qui est moins bien connu, c'est que plus de la moitié des citadins en Europe sont soumis à un niveau de bruit excessif. 67 millions de personnes qui résident dans les grandes villes des 27 pays membres de l'Union européenne subissent aujourd'hui un niveau de bruit trop élevé. C'est l'Agence européenne de l'environnement qui l'indique dans un rapport. En cause notamment le trafic routier avec sa pollution sonore. Paris se trouve d'ailleurs dans les premiers rangs du hit parade. La capitale française détient la 3e place. Seulement 2 capitales sont plus bruyantes que Paris. Ce sont Bratislava en Slovaquie et Varsovie en Pologne.
Claude Bureau, c'est aussi votre avis? Paris est trop bruyant?
Ça dépend où on est dans Paris. C'est vrai que si on est le long des périphériques, il est sûr que ça doit être plus bruyant. Moi qui habite dans le Jardin des Plantes et qui suis né dans l'île Saint-Louis, j'ai pas toujours trouvé ça très très bruyant, hein, il faut le dire. Ce qui nous manque, c'est les espaces verts. Parce que les espaces vert, c'est une solution actuellement pour lutter contre le bruit.
Merci, merci Heike Schmidt.
C'est pas du vent @rfi.fr.
Alors Claude Bureau, une de nos journalistes, Patricia Vigneault, s'est rendue il y a quelques semaines dans un congrès de paysagistes à Paris. Je vous propose d'écouter son reportage et de nous faire part justement de vos commentaires après.
Quelle est la place de la nature aujourd'hui alors que 75% des Français vivent en ville? Michel Pena, architecte paysagiste, et président de la Fédération française du paysage, répond à cette question.
Il n'y a plus de nature sauvage au sens premier du terme, puisqu'en effet, l'homme a colonisé l'ensemble de la planète. Ça, c'est un fait. Et donc, aujourd'hui, la différence, c'est qu'au lieu d'utiliser la science pour son bénéfice immédiat, il l'utilise aussi pour recréer de la nature et pour recréer du milieu vivant. Par contre, le paysage des villes doit redevenir un véritable lieu de vie, de bonheur, je dirais, et pour les citoyens au quotidien, qu'on n'ait pas besoin de partir à 500 km pour en jouir. Cette nature-là. Donc, il faut réintroduire vraiment la nature dans toutes ses dimensions, aussi bien écologique, je dirais, fonctionnelle, que culturelle.
Ainsi, la nature domestiquée prend une nouvelle fonction au sein des villes, comme l'explique Fabienne Giboudot, adjointe au maire de Paris, chargée des espaces verts.
Une nature apprivoisée, mais une nature qui est de moins en moins décorative, qui est de plus en plus partie prenante des besoins en termes de santé, des besoins en termes de cadre de vie, qui dépasse l'approche un peu décorative des jardins. Je pense que c'est ça la grande révolution de ces prochaines années, c'est d'avoir des villes justement le végétal, il rentre dans la ville par nécessité pour les questions d'îlots de chaleur, de baisse de ses températures et aussi de rendre acceptable cette vie en ville qui est une vie très dure.
La nature urbaine pourrait permettre aux citoyens de retrouver ses racines.
Alors Claude Bureau, oui. Cette nature domestiquée, apprivoisée qui nous rend des services.
Le rôle du jardinier, c'est de mettre en scène la nature. Actuellement, c'est vrai, le constat qui a été fait, c'est vrai qu'il n'y a plus de zones sauvages au sein de nos grandes cités. Il n'y a plus de zones humides ou des endroits qui sont réservés, disons, à ce qu'on pourrait appeler la flore spontanée. Mais il est vrai que c'est le nouveau rôle des jardiniers qui autrefois, on leur demandait de créer des jardins à la française avec des grandes allées bordées de buis, etc. C'est de recréer maintenant des espaces naturels. Et il y a un boulot énorme à faire parce que mettre en scène la nature, mettre en scène même les espèces dites sauvages, entre guillemets, parce que ça, on peut encore en discuter, c'est un travail considérable. Et je pense qu'actuellement, il y a un mouvement au niveau des régions, des départements et des villes pour recréer ces îlots, de nature au sein des cités.
Que vous a appris cette nature ? Quelle grande leçon, finalement, vous a donné toute
la patience, d'abord. La patience, et puis quelque chose qui s'est complètement perdu actuellement, c'est la saisonnalité. Hein, printemps, été, automne, hiver, les gens savent plus ce que c'est. Vous parliez tout à l'heure de l'Espagne avec ses fraises qui nous arrivent au mois de janvier. Bon, il est tout à fait évident que les jardiniers savent très bien que les fraises, ils poussent pas au mois de janvier. Donc, redécouvrir la saisonnalité, redécouvrir aussi le temps, redécouvrir la pluie, redécouvrir le rose. Enfin, le jardin, c'est ça. Les gens, actuellement, tout est virtuel. Hein. Vous avez, d'ailleurs, moi, je vois que je m'occupe des enfants au potager pédagogique. Je vois que les enfants sont absolument impatients de voir une graine germer. Quand on leur dit qu'une graine germe en 10 jours, ils ont tellement l'habitude d'appuyer sur l'écran, sur le bouton pour avoir la plante qui pousse toute seule sur l'ordinateur, qu'ils sont étonnés.
Alors, justement, comment l'homme peut se réconcilier avec cette nature pour vivre en harmonie avec elle, juste pour conclure?
Oui, mais je pense que de toute façon, c'est tendance. On se réconciliera, mais il est tout à fait évident que si on continue des histoires comme les pommes de terre transgéniques,
ça va pas nous aider.
Ça va poser quelques problèmes. Quoi.
Merci Claude Bureau de votre visite. C'est pas du vent, on revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous parlerons de la mer d'Aral. A tout de suite.